Stéphane Corr, vous êtes spécialiste des questions numériques et formateur. Facebook a récemment décidé de ne plus bannir les informations concernant une éventuelle fuite du coronavirus d'un laboratoire. Ça vous fait réagir comment ?
Disons, je peux comprendre l'approche, c'est-à-dire quand on parle d'une fuite accidentelle d'un laboratoire, qui est une théorie qui a toujours existé, c'est-à-dire l'hypothèse, elle est réaliste, par contre, c'est peu probable. Maintenant, cette probabilité ou ce peu de probabilité, il doit être évalué par des scientifiques. Alors, bien sûr que sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour essayer de définir si oui ou non, fuite accidentelle, il y a eu.
Surtout que tout le monde est devenu un peu scientifique sur les réseaux sociaux.
Voilà, on a des gens qui ont acquis des diplômes en épidémiologie, en virologie, en tout ce qu'on veut, en quelques clics à travers les posts Facebook et qui relaient tout et n'importe quoi. Donc finalement, on a beaucoup de parasitage dans l'information. Pour éclaircir ce type de situation, c'est extrêmement complexe, surtout qu'on est dans une dynamique qui est géopolitique, géostratégique, on a le conflit économique entre la Chine et les États-Unis, on a des services de renseignement qui, dans tous les deux côtés ou dans tous les pays, ben, travaillent un petit peu pour leur propre paroisse, si je peux exprimer ça comme ça. Donc, c'est très compliqué d'avoir quelque part une idée de ce qu'est la vérité. Et la Chine n'est pas non plus le pays le plus transparent au monde. Hein.
Mais est-ce que c'est Facebook qui doit décider de ce qu'est la vérité ou pas ? Parce qu'on parle quand même de lever un bannissement. Ça veut dire que jusqu'avant, on ne pouvait plus dire cette théorie, puis que maintenant, on peut désormais, parce que l'histoire nous montre que c'est possible. Est-ce que c'est aux réseaux sociaux de décider ça ?
Alors, dans une certaine mesure, les réseaux sociaux ont un devoir quand même d'évaluation de certains types d'informations qui circulent sur leur plateforme parce qu'on n'a pas arrêté de leur en faire le reproche du fait qu'ils ne le faisaient pas assez. C'est-à-dire qu'on leur disait « oui, mais vous laissez circuler tout et n'importe quoi, des fausses informations et autres. » Et quand ils prennent des mesures, alors Facebook prend des mesures, mais ces mesures ne sont pas appliquées par Facebook en tant que tel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de journalistes qui travaillent avec Facebook et ces fact-checkers, donc ces vérificateurs de faits, sont des journalistes. Ces journalistes vont des fois faire retirer certaines informations, certaines publications, ou faire que ces publications aient un label, en fait, une petite alerte quand on va les vérifier, soit qu'elles soient mises en grisé, soit qu'elles alertent les utilisateurs qu'il y a un problème avec, quelque part, un complément qui informe sur la nature du problème en question.
Est-ce que c'est possible, peut-être, qu'à long terme, parce qu'on parlait quand même d'une théorie du complot, même si ça peut s'avérer peu probable, mais que tout d'un coup, ça s'avérait vrai, est-ce que si ce genre de choses arriver à nouveau, est-ce que Facebook ne risquerait pas de perdre sa crédibilité ?
Alors, ben, ça dépend de la manière dont les choses peuvent se présenter. C'est pas parce que tout d'un coup, il se pourrait s'avérer qu'un accident a eu lieu dans un laboratoire PKT à Wuhan, que ça veut dire que les gens qui, il y a 6 mois en arrière, disaient « oui, c'est un accident de laboratoire », avaient raison. J'entends. Ça dépend des informations qui ont été obtenues, parce qu'il y a un moment où les informations n'étaient pas là, donc forcément, même si on avait raison, on n'avait pas raison. On avait raison pour de mauvaises raisons.
Ouais, ou juste pour une intuition, sans vraiment savoir. Quoi.
Voilà, donc ouais. Il faut faire attention au biais rétrospectif, on est pétri de biais cognitifs et on est tous quelque part à les exprimer sur les réseaux sociaux.